Quand ils sortent de l'opéra après la représentation, en cette soirée glacée de février, les nouvelles ne sont pas bonnes. Les téléphones frémissent de rumeurs, les bruits de bottes se rapprochent. Pendant qu'ils dansaient, tout s'est accéléré. Ce n'est plus qu'une question d'heure à présent. En rentrant dans leur petit appartement des faubourgs de Kiev, Svitlana et Dmitro sont conscients que la chute risque d'être vertigineuse. Le jour se lèvera peut-être sur un monde nouveau. Ils s'allongent, serrés l'un contre l'autre, impossible de fermer l'œil. Le silence d'avant les grandes catastrophes, de la ville effrayée et de la nuit qui se fait épaisse. Les yeux fixés sur la pendule de leur chambre, ils attendent. Les premiers obus russes tordent le ciel à l'aube, à 5h07 précisément. D'abord, juste le noir et le fracas. Le son sourd des impacts au loin par-delà les immeubles de leur bloc. Les chiens nerveux qui aboient, les oiseaux affolés qui se cognent contre les vitres. Ainsi, c'est cela la guerre. Ce grondement terrifiant surgit brusquement d'un ailleurs invisible. Ainsi, c'est cela, la vie qui bascule en une fraction de seconde. Leur cœur cogne au rythme des frappes. Puis, un court sifflement transperce cette aube d'apocalypse. Cette fois-ci, c'est différent, bien plus proche. Il n'y a plus rien à faire, plus le temps de partir se mettre à l'abri. La vie en suspens, avant la mort. Les murs tremblent, un flash lumineux les aveugle. Le missile russe vient de s'abattre sur l'immeuble d'en face. Les vitres de leur salon volent en éclats, la pluie de verre se répand dans la pièce sous l'effet du blast. Leur chambre, côté cour, est épargnée. La vie ne tient parfois qu'au plan d'un architecte. Le vent s'engouffre à travers les fenêtres brisées. Svitlana sent les lames de froid la traverser. L'angoisse déforme son visage, ses yeux en amande se vident brutalement de toute leur âme. Elle est saisie de spasmes. Dmitro est le premier à reprendre ses esprits. Les lueurs fantomatiques des messages d'alerte et des consignes crépitent sur son téléphone et éclairent son visage crispé. Il secoue le bras de son épouse.
« Ce n'était pas du bluff. Il faut descendre à la cave, vite !»
Il la force à se lever, mais elle tient à peine debout. Son port de tête altier a disparu. La danseuse entend au loin la macabre symphonie des alarmes de voiture et des hurlements de panique. La sinistre petite musique de la terreur et son cortège de fausses notes l'engloutissent tout entière et éteignent ses dernières défenses. De la fumée s'élèvent des voitures en feu, l'air devient irrespirable. Dans le couloir, ils restent accrochés l'un à l'autre. Devant la porte du salon, Svitlana se fige. Les premiers rayons du jour percent à travers les vitres brisées. Un soleil obscène. Dans le trait de lumière, là où elle l'a suspendu la veille, son tutu se balance dans l'air gelé, déchiré, déchiqueté, en lambeaux sa seconde peau de tulle blanc. Des perles sont éparpillées sur le sol. C'est toute sa vie qui se trouve soudain comme le tissu mutilé. Son cri déchire son corps et son cœur. Elle s'effondre dos au mur, agrippée à ses genoux, la tête entre les mains. Dmitro, désemparé, tente de la relever.
« On ne peut pas rester ici. Sveta, suis-moi, il faut que tu tiennes le coup. Je t'en prie, bats-toi, on n'a pas le choix. »
Le jeune homme attrape à la hâte la valise d'urgence que le gouvernement a conseillé de préparer les semaines précédentes. Dmitro se rappelle leurs éclats de rire quand ils avaient jeté une tenue de sport et quelques barres de céréales dans un sac, sans croire une seconde à la probabilité d'une invasion de leurs voisins, aussi puissant et menaçant fut-il. Il riait pour ne pas avoir peur. Dans l'Europe du XXIe siècle, un pays ne pouvait pas en envahir un autre. C'était absurde. Pour eux, les mots agresseurs, occupants, n'étaient que de sombres échos du passé, de ces guerres que leur racontaient leurs grands-parents avec des sanglots dans la voix. D'un geste plein de rage, Dmitro éteint les lumières, suivant les recommandations des autorités, et Svitlana le suit mécaniquement ailleurs, dans un entre-deux mondes. Elle ne voit pas les dizaines de voisins qui descendent les escaliers, troupeaux désordonnés et affolés vers l'abri du vieil immeuble construit sous l'ère soviétique. Elle ne distingue que les taches de leurs blousons d'hiver enfilés à la hâte, une grossière symphonie de couleurs alors que le noir s'abat sur le pays. Le long du mur à la peinture écaillée se presse Lydia, la retraitée du 8e, qui n'a pas lâché ses aiguilles à tricoter, le jeune Anton de l'appartement numéro 14, son casque de musique autour du cou, ou encore le petit Ivan du 3e, accroché à son ours au pelage fatigué. Elle ne sait pas combien de temps ils mettent pour descendre les 15 étages au milieu des pleurs et des cris d'animaux paniqués tout autant que leur maître. La voisine du 7e a eu le temps d'attraper son canari qui s'égosille dans sa cage.
La babouchka du quatrième serre si fort son bichon maltais qu'elle va l'étouffer. C'est la fin du monde dans cet escalier devenu radeau de désespoir. Aux côtés de Sergueï, leur voisin de palier militaire à la retraite, Dmitro prend les opérations en main. Avec des gestes doux, malgré l'urgence, il aide les plus âgés à s'installer sur les chaises en plastique, pose sa main sur le bras d'une grand-mère en proie à une crise de panique, déplie les matelas et les couvertures entreposées quelques jours auparavant, quand l'éventualité d'un assaut russe se précisait dans l'incrédulité générale. Son autorité, son sang-froid et son expérience de chef de troupe s'imposent naturellement. Sans trembler, il occupe cette drôle de scène. Lui, qui a tout dansé, des Noces de Figaro de Mozart au Roméo et Juliette de Prokofiev, en passant par Carmen de Bizet, endosse un rôle pour lequel il n'a jamais répété. Sergueï recense les présents et évalue les besoins pour les heures à venir. La soixantaine, cheveux grisonnants et visage taillé à la serpe, il sait de quoi l'adversaire est capable, et pour cause. Il l'a combattu à l'Est dès 2014, au début de la guerre dans le Donbass. Son engagement lui a coûté son boulot de contremaître et son mariage. Le sens du devoir, lui en connaît déjà le prix. Sergueï a immédiatement compris que la situation n'aurait rien de provisoire. Le regard vide, Svitlana n'arrive toujours pas à bouger, plongée dans les abîmes de la sidération. Son corps, d'habitude si souple, s'est raidi par traîtrise. Il n'obéit plus, immobile, inutile, un bloc de pierre. Maintes fois pendant sa carrière, il l'a fait souffrir. Elle forme avec lui un couple tumultueux. Amour, haine, cela dépend des jours, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il lui ferait défaut. Au-dessus, à la surface de la terre devenue hostile, les sirènes ne cessent de hurler leur effroi. Le bruit sourd des bombes est insupportable. Ils vont devenir fous. Les ampoules à la lumière vacillante se balancent au bout des fils électriques, rythmant ces minutes interminables. Dans la pièce, Svitlana parcourt du regard cette assemblée de destins fracassés un matin de février. En face d'elle, la vieille grincheuse du cinquième a soudain perdu sa morgue. Le petit du troisième s'est enroulé dans les jupes de sa mère. Il lutte pour empêcher ses larmes de rouler. Sa poitrine se soulève en sanglots muets. Elle voit la mare sous ses genoux, tache mouvante sur le sol de pierre. L'odeur âcre de l'urine et de la peur la prend à la gorge. La danseuse se recroqueville. La veste qu'elle a attrapée n'est pas assez chaude. Dans la panique, son chignon s'est défait. Et ses longs cheveux bruns tremblent eux aussi. Elle a juste envie de s'allonger et de dormir pour s'échapper. Elle a honte, si honte de sa faiblesse. L'étoile qui brillait de tous ses feux s'est éteinte sans gloire. Elle qui se croyait invincible a flanché au premier impact d'obus. Elle ferme les yeux comme si clore ses paupières allait éloigner le danger et cherche refuge en elle-même. Il ne lui reste plus que son corps pour s'abriter de l'extérieur. Elle convoque la musique de celui qui peut la comprendre, Tchaïkovski. C'est une longue histoire entre elle et lui. Elle respire profondément, fait place au lac des cygnes, monte le son intérieurement. Ne plus entendre le ciel qui tambourine, se concentrer sur les accords, laisser la musique agir comme un pansement. Les premières notes exercent leur effet thérapeutique dans son esprit, ses muscles commencent à se relâcher. Elle regarde les baskets à ses pieds, rêve qu'elle s'envole. Quelques entrechats pour survoler le malheur, quitter l'obscurité de la cave pour la lumière de la scène et disparaître telle une particule évanescente. Dans la ville, au souffle coupé, un silence inquiétant semble s'installer. Depuis combien de temps sont-ils tous terrés dans le sous-sol ? Sergueï remonte avec précaution au rez-de-chaussée, mais, même s'il n'ose l'avouer, il est bien incapable de tirer des conclusions. Une chose est sûre, il est trop dangereux de retourner dans les appartements. De toute façon, aucun d'entre eux n'ose sortir et affronter la mort. Aucun d'entre eux n'a l'entraînement ni la force physique ou mentale. Personne ne leur a dit qu'un jour, ils pourraient être fauchés au petit matin dans leur tour grise et anonyme, dans leur existence sans surprise et écrite à l'avance. Qui l'aurait cru ? Ils restent cloîtrés toute la journée. Personne ne parle. Même le bébé s'est tu, recroquevillé contre le sein de sa mère. Né et déjà presque mort. Dans l'obscurité d'une cave humide. Quant à la vieille Irine, elle ne lâche pas ses aiguilles à tricoter. Concentrée sur ses petits points, malgré la cataracte qui voile ses yeux, elle ne veut ni voir ni entendre ce monde qui perd la tête.